Bonjour, bienvenue pour la 15e édition de Lire et Écrire sur Studio ZEF 91.1 en FM, tous les samedis de 14h à 15h et en podcast évidemment toujours sur studiozef.fr, Lire et Écrire, où vous retrouverez toutes les émissions. Je commencerai comme toujours à parler d'atelier d'écriture, ensuite je vous présenterai un écrivain un peu oublié, car non politiquement correct, Paul Léoto. Les formes d'un atelier d'écriture sont infiniment variées. Tout d'abord, il faut tenir compte des participants. Si ceux-ci viennent depuis plusieurs années, ils ne voudront pas jouer sur des mots, des consignes simples à la Pérec. Le problème étant, comme je l'ai déjà dit, de concilier le niveau des nouveaux arrivants avec les anciens. Certains animateurs contourneront la difficulté en choisissant un thème et ne travaillant que sur celui-ci. Ça peut être un auteur, un livre, un film, puis bien d'autres choses évidemment. La difficulté en est de se procurer le support du sujet. Pour un livre ou un auteur, il vaut mieux choisir un auteur récent, toujours publié et si possible en poche pour un coût moins élevé. Pour un film, il y a les bibliothèques, mais là encore, certains DVD sont rares. On peut alors faire une projection privée avec tous les participants qui verront le film. Souvent, du moins dans les ateliers que je connais, les séances sont espacées de 15 jours et durent moins longtemps. 1h30 en général. 2h me semble plus correct, surtout si les gens n'ont pas reçu de consignes avant. Et certains écrivent plus lentement que d'autres. Un autre problème récurrent est l'horaire et le lieu où se tiendra l'atelier. Dans une structure associative, dans des locaux publics, elles se dérouleront en heure ouvrable. L'avantage étant le très faible coût d'inscription. Le défaut étant que les personnes ayant des activités salariées, étudiantes ou commerciales ne pourront pas venir. Certains ateliers ont donc lieu dans des lieux privés, espaces de coworking, bars, restaurants, etc. Avec des professionnels de l'écriture, ce qui augmentera considérablement le prix et aura le défaut de ne pas être abordable par tous à cause du coût. Le rêve est pour moi un atelier accessible le soir, dans un lieu public, animé bénévolement, pour un coût dérisoire, ouvert de façon la plus démocratique qui soit, et je doute d'avoir la patience de Paul Léoto qui a attendu d'avoir 78 ans pour avoir une reconnaissance de son œuvre. Paul Léoto est né le 18 février 1872 à Paris et décédera à l'âge de 84 ans en 1956 à Châtenay-Malabry. Une grande partie de sa vie la passera dans son pavillon de Fontenay-aux-Roses, qui sera un refuge pour chiens et chats abandonnés ainsi qu'une guenon. Il travaillera pendant 40 ans au Mercure de France pour des critiques littéraires et des chroniques théâtrales. Il publia un roman, Petit Ami, qui aurait pu avoir le Goncourt, mais il a horreur de la littérature alimentaire. Alors, malgré ses soutiens, il refuse la réédition et vivote de ses chroniques. Il se passionne pour la défense des animaux. Il recueille des chiens et des chats abandonnés. Il les nourrit, les soigne, les place, les garde et garde ceux qui ne sont pas pris ou prenables. Sa vie sentimentale est chaotique. Enfant, il est abandonné par sa mère et son père ne s'en occupe absolument pas. Adulte, il n'aura que des amantes. Il n'ira qu'à l'école primaire. Sa culture, il l'a fait tout seul, en assistant aux pièces de théâtre où travaillait son père et en lisant beaucoup. Il n'a jamais été riche, car après avoir fait des petits boulots, il obtient un poste au Mercure de France, mais peu payé. Il attendra ses 78 ans pour être enfin reconnu avec ses entretiens avec Robert Mallet à la radio. Bien qu'enfin l'argent arrive, il continuera à vivre chichement jusqu'à sa mort. Sa réputation de sale caractère et surtout sa maison inabordable, un bunker gardé par des dizaines de chiens, font qu'il vit en solitaire. Pierre Perret a prétendu l'avoir rencontré chez lui, mais il semble que ce soit une légende. Les entretiens avec Mallet ont été publiés par la NRF en version complète, la radio ayant censuré de nombreux passages, notamment ceux où il parle de ce qui se passait dans l'appartement de son père, qui y amenait une fille différente chaque soir, ou selon ce que lui avait raconté sa mère, sa sœur et elle auraient couché dans le même lit dès leur rencontre. Les critiques ont dit de ces entretiens que le vieux, c'était Mallet, et le jeune, c'était Léoto. Esprit libre et provocateur, il est à chaque moment de sa vie à contre-courant du politiquement correct, ce qui fait de lui, évidemment, encore un écrivain maudit. Marie Dormoyle, dont il est devenu l'amant dans son grand âge, fut son exécuteur testamentaire et s'occupera de le publier après sa mort. Ainsi, le roman Amour ne paraîtra qu'en 58, 2 ans après sa mort.
Oh.
Je vais vous faire écouter des extraits des entretiens pour entendre cette voix particulière et surtout la fougue qu'il y met pour racéner ce qu'il dit.
Je vais vous demander de préciser ce que pour vous est exactement l'amour. Car on peut, je comprends très bien que vous ayez été l'ennemi du mariage en raison de votre antiféminisme. Certains
prétendent même... mais non, c'est pas l'antiféminisme, ma liberté.
Mais enfin, les deux s'ajoutent.
Non.
Le désir de la liberté.
Comme mon père a dit.
Le désir de ne pas lier votre vie à un être que vous n'appréciez pas.
Mais, n'importe quel autre. Je veux être seul. Quand mon père voulait me faire épouser Georgette parce qu'elle avait 15 000 francs qui paraissaient à ses yeux être seul, je lui dis quand l'argent sera dépensé, je serai embarrassé, je veux être seul. N'est-ce pas ? Il n'y a qu'une chose qui m'a conduit dans ma vie, mon travail. Là. Et jamais je n'ai sacrifié mon travail à une amourette. Jamais. Même, j'ai eu deux passions dans ma vie. Même à la passion, jamais. Quand il y avait une chronique à écrire, tout le reste, c'était le corps.
Vous venez de parler de passion.
Oui, une passion physique.
Oui, justement, voulez-vous m'expliquer ce que représente pour vous la passion, l'amour, ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Et vous avez écrit dans votre plaquette intitulée Amour, deux pages, les deux pages d'ailleurs qui introduisent cette plaquette, dans lesquelles vous avez très bien résumé cette appréciation de l'amour. Voulez-vous nous les lire ces pages?
Ça fera plaisir aux gens qui sont sentimentaux, ce qui est la dernière des âneries. Sentiment. L'amour, c'est le physique. C'est l'attrait charnel. C'est le plaisir reçu et donné. C'est la jouissance réciproque. C'est la réunion de deux êtres sexuellement faits l'un pour l'autre. Hein ? Sexuellement faits l'un pour l'autre.
J'ai bien entendu.
Voilà. Le reste, les hyperboles, les soupirs, les élans de l'âme, sont des plaisanteries, des propos pour les niais, des rêveries de beaux esprits impuissants. La passion, c'est le feu que met en nous ce plaisir. Le sentiment, c'est l'attachement à ce plaisir et comme qui en dirait la gratitude, si ce mot pouvait s'employer en amour. La jalousie, les déchirements, jusqu'au meurtre qui en découle quelquefois, c'est le physique. C'est la représentation de l'être auquel on tient pour son plaisir, donnant ce plaisir à un autre. Une maîtresse qui meurt, on peut la regretter, on n'est pas jaloux. Une maîtresse qui vous quitterait pour entrer au couvent, on pourrait être désolé, on ne serait pas jaloux. Regardez un ménage. Le mari de beaucoup plus âgé que la femme. Celle-ci à l'âge auquel les rêveries se réveillent. Celui-là fini et plus rien comme mari honoraire. Il est ascendu de la jalousie. Plus de questions sexuelles, plus de jalousie. Et même les rapports moraux vont se modifier du tout pour tout. Autre preuve, côté homme comme côté femme. Deux êtres se connaissent, se plaisent, s'accordent surtout, chacun ne se voyant pas l'un sans l'autre. La réunion physique a lieu. Il y a dissemblance, opposition de nature, de goût, de façon, trop de froideur pour l'un, trop d'ardeur pour l'autre. Le premier déçu, le second choqué, le détail le plus insignifiant, physique ou sensuel, c'est fini. Le plaisir est impossible. S'ils sont libres, ils se quittent. S'ils sont mariés, c'est la chaîne, l'hostilité cachée. Deux êtres peuvent avoir, pour les éloigner, les faire différents moralement, mettre entre eux le plus profond des accords, tous les motifs extérieurs. Vous les voyez attachés l'un à l'autre, incapables de rompre, ne se quittant que pour se reprendre, parce que chacun a dans l'autre son partenaire pour le plaisir, dont il ne saurait se passer, ni voir à un autre ou à une autre. L'amour, c'est le physique. Et la Rochefoucauld l'a oublié. L'amour est encore une forme de l'intérêt. Ce qu'on aime dans un autre, c'est soi, c'est son plaisir. C'est le plaisir qu'on lui donne et qui est encore une forme de l'autre.
Encore une forme ?
D'une autre.
Oui, de notre plaisir, oui.
Voilà.
Atelier présenté par Robert Mallet.
Je crois que lorsque je suis en société, je suis drôle, je suis amusant, j'ai réparti tout ça, mais pas trop. Je suis très drôle, je suis très amusant, très spontané, j'ai bien plaisir. Mais chez moi, je me foutrais à l'eau. Quand tu sors chez moi, je me foutrais à l'eau.
Tu restes un peu plus chaud pour un plaisir
réel, artificiel.
Non, c'est vous qui mettez une des poètes dans ce mot. L'aspiration, vous pourriez l'avoir également.
Des entretiens avec Robert Mallet dans le texte non expurgé. Robert Mallet. Quand vous êtes né, votre père était-il toujours acteur ?
Oui.
Il n'était pas encore souffleur. Et votre mère ?
Ma mère était actrice, elle aussi.
Mais mon père avait d'abord commencé par connaître la sœur de ma mère. Pourriez-vous expliquer par quel concours de circonstances votre mère et votre père se sont connus ?
C'est bien léger.
La façon dont vous le direz fera passer ce que vous direz. Le père Léoto était devenu l'amant d'une actrice, ma future tante Fanny. Il habitait avec elle rue Lamartine et Jeanne, ma future mère, qui avait alors 18 ans, habitait rue de Dessa, chez ses parents. Un jour, elle était venue voir les deux amants rue Lamartine. La conversation s'était poursuivie très tard. Enfin, mon père, quand je dis mon père, il ne l'était pas encore, a dit « On ne peut pas laisser retourner Jeanne là-bas, rue d'Odessa, toute seule, au milieu de la nuit. Alors elle n'a qu'à coucher ici. » En effet, Jeanne a couché avec les deux amants. Et mon père était au milieu.
Bien.
Et ma mère, qui me l'a raconté quand je l'ai revue à Calais 30 ans plus tard, m'a dit « Ma présence, à moi, qui était encore tout à fait ignorante, n'a pas empêché votre père de faire l'amour avec Fanny et de toutes les façons, à côté de moi. Ensuite, ça ne l'a pas empêché de me prendre aussi pour maîtresse. » Il y eut à ce moment, dans les propos de ma mère, une légère hésitation, comme si elle regrettait d'en avoir trop dit. Il est bien certain qu'on ne prend que ce qui se laisse prendre. Moi, je pense, tel que j'ai connu mon père, qu'après s'être diverti à droite, il s'est diverti à gauche. La preuve, c'est que le lendemain, Fanny courroucée, écœurée, scandalisée, est retournée dans sa famille et que Jeanne s'est installée à sa place. Et finalement, elle est devenue votre mère.
Oui.
Vous êtes né en 1872.
Oui,
à Paris, rue Molière. Dans une partie de la rue qui, je crois, a été détruite au moment des agrandissements d'Haussmann. C'est exact, et ma connaissance et ma naissance a été déclarée à la mairie de Saint-Germain-l'Auxerrois. Avez-vous été baptisé ?
Oui, à Saint-Roch.
Quel a été votre parrain ?
Le comédien Beauvallet.
Je crois que vous avez eu pour marraine une certaine Bianca, sociétaire de la Comédie-Française. Je pensais qu'elle s'appelait Blanche Boissard. C'était son vrai nom, mais au théâtre, elle se faisait appeler Bianca. Est-ce en souvenir de cette marraine que vous avez pris le pseudonyme de Boissard pour signer vos chroniques ?
Oui, oui, elle était aussi la marraine des enfants de Réjeanne.
Votre baptême est sans doute une des rares cérémonies religieuses à laquelle vous ayez participé.
J'ai fait aussi ma première communion.
Après votre baptême, je crois qu'on ne vous a pas ramené à la maison, mais qu'on vous a mis en nourrice.
Forcément, ma mère est partie 3 jours après ma naissance.
Elle avait une fameuse santé. Elle vous a abandonné complètement ?
Oui, oui.
Elle avait donc une santé morale moins bonne. Savez-vous pourquoi elle est partie ?
Je n'ai jamais su ce qu'il y avait eu entre elle et mon père. Il paraît qu'elle avait une existence assez scabreuse.
Elle aurait pu avoir une existence scabreuse et tout de même ne pas vous abandonner.
Je n'ai jamais approfondi. Je crois que tous les deux étaient aussi cascadeurs l'un que l'autre.
On vous a confié à une nourrice ?
Oui, mon père était célibataire. Il avait son métier. Il ne pouvait pas me garder, alors il m'a mis en nourrice.
Tout d'abord chez une femme qui, au bout d'un an et demi, m'a mis dans un tel état que les médecins ont dit « cet enfant ne vivra pas ». Elle s'amusait à me laisser des journées entières avec dans la bouche un bout de chiffon trempé dans du lait. Vous comprenez, au bout d'une demi-heure, il n'y avait plus rien au chiffon. C'était très débilitant. Alors, on m'a mis chez une autre nourrice, chaussée du Maine. Et celle-là m'a recalé. À 2 ans, je suis rentré dans la maison de la rue des Martyrs chez mon père. À ce moment, il n'habitait donc plus rue Molière. Non, il habitait rue des Martyrs, au 13, dans le bas. Ensuite, il a habité au 21. J'ai eu la curiosité d'aller voir vos anciennes demeures. Je crois qu'elles n'ont pas beaucoup changé depuis que vous y avez vécu. Je me demande même si ce ne sont pas les mêmes commerces qui y sont toujours installés.
Je me suis promené dans ce quartier que vous avez aimé, si vivant, si coloré. Y êtes-vous resté attaché ?
Oui.
Mais je le trouve bien différent maintenant. Pourtant, c'est un des rares quartiers dont la physionomie n'est pas changée depuis 50 ans. J'avais conservé de la rue des Martyrs un souvenir mirifique. Aujourd'hui, je trouve qu'elle est un boyau. Votre réaction est normale, les yeux d'enfant agrandissent toujours les choses, et l'homme est déçu. À 2 ans, vous voilà donc rentré dans la maison de la rue des Martyrs. À qui votre père vous confiait-il pendant qu'il travaillait ? À une vieille bonne qu'il avait engagée pour s'occuper de moi. Elle s'appelait Marie Peset. Elle s'est occupée de vous pendant combien de temps ? 10 années. Elle a été pour moi d'un dévouement extraordinaire. Et vous couchiez chez votre père ?
Non, chez Marie Peset, rue Clausel, tout à côté.
Tous les soirs, mon père rentrait avec une créature différente et ma bonne avait trouvé que ce n'était pas un spectacle à offrir à un enfant. Ce que cette femme a été pour moi, vous savez, elle était très maternelle,
oui.
Vous l'avez beaucoup aimée, je la considérais comme ma mère.
We'll be right back.
extrait du bestiaire. Mercredi 22 novembre. Le concierge du 28 de Condé m'a fait demander ce matin au sujet d'un chien qu'il a trouvé hier soir dans la rue, chassé d'une porte où il s'était réfugié et qu'il a recueilli dans la remise de sa maison. Un chien genre barbé, plus grand de taille qu'ami, plus allongé aussi, blanc avec des taches marron. Ils l'ont lavé puis nourri. Ils voulaient me le montrer et me le mener rue de Seine. J'ai pensé à Monsieur Caplan. J'ai emmené le chien à midi avec moi, le concierge me prétend un collier, le chien n'en ayant pas. Il suivait très bien en gambadant. En descendant à Fontenay, rencontré ces gens à bête dont j'ai fait connaissance dès mes premiers jours de Fontenay. Je leur montre le chien, ils m'indiquent des gens avenue Bourg-la-Reine qui veulent un chien. J'y vais tout de suite avant déjeuner, époux Lagarigue, 5 avenue de Bourg-la-Reine. Le mari postier au bureau de la rue Danton. Le chien leur plaît. Ils ont l'air de braves gens. Je ramène le chien, j'ai vu qu'il avait quelques poux au museau et je veux l'en débarrasser. À la maison, je le mets au poulailler. Mardi 28 novembre. Ce matin, quand je passe, la concierge du 28 rue de Condé me parle d'un petit chien perdu, réfugié au poste militaire du Sénat, qu'elle a vu, qu'elle veut aller prendre pour le mener rue de Seine. Je vais voir. Le concierge de l'entrée, face à rue Garancière, me dit qu'il a vu ce chien suivre le soldat porteur des gamelles retournant à la caserne Babylone. En revenant de déjeuner, je vais voir, c'était revenu... Non, j'en vois un autre, un chien de taille moyenne, à long poil, noir, brillant, collier sans plaque et couvert de boue. Il est là, couché au pied du mur, ou tournant, aimable autour des agents. Je lui passe ma corde, je l'ai reprise depuis quelques jours, et l'emmène chez la concierge en la priant de me le garder le temps de faire mon travail au mercure, après quoi je le mènerai rue de Seine. Elle l'a fait manger, une bonne pâtée. Quand je suis venu pour le prendre, il s'est échappé, pour retourner au poste du Sénat. Je l'ai repris là, et je l'ai mené rue de Seine. Encore un chien de voiture, sans doute, comme le barbé de l'autre jour, qui regardait en route toutes les voituriers, qui auraient mal suivi inhabitués ou dépaysés. Et toujours des colliers sans adresse. Le curieux, c'est son attachement pour la place où il était. Perdu là, sans doute, il voulait attendre là, comme si il pensait que c'était là qu'on viendrait le reprendre. J'ai écrit à la fourrière pour le signaler. J'ai des remords aujourd'hui. J'aurais mieux fait de poser mon sac de croûte quelque part, de me moquer de mon train, de m'attacher à la poursuite de ce malheureux, quand je n'aurais réussi qu'à le faire manger un peu en lui achetant quelques rognures. Ça aurait toujours été cela. Hier, en sortant de chez Madame Véret, où j'étais allé prendre des nouvelles du chien noir de mardi dernier, elle venait de le conduire au dépôt de la SPA, rue Paul-Louis Courrier. Je suis allé voir rue de Échaudet, chez un loueur de voitures, où Madame Véret l'avait placé tout de suite. Le grand chien blanc que j'ai trouvé une nuit, au commencement de cette année, rue Notre-Dame-des-Champs. Bien portant, gai, très affectueux, en un mot, pas malheureux. Preuve qu'il faut toujours faire son possible pour attraper un chien perdu. On court la chance de le placer, et en tout cas, on lui donne un abri, la pâtée, et même s'il doit être abattu au refuge, on le sauve des souffrances de la vivisection.
Everybody was frightening, and the music was... with a wink of her eye. Oh yeah, it was electric, so frantically hectic.
De Amour, 1958. J'avais retenu là pour le lendemain soir une chambre où un dîner serait servi, en payant le tout d'avance, à peu près 20 francs, je crois. Aucunement à me plaindre d'ailleurs. Ce fut très bien. À 6 heures, Ambert m'amena Jeanne, rue de la Grange Batelière, et la confiante à ma garde se précipita à son rendez-vous, pendant que nous en faisions autant vers la rue des Martyrs. Jeanne s'est-elle souvenue quelquefois de cette soirée dans cette jolie chambre, toute tendue d'étoffe bleue, une vraie chambre de femme, que je revois si bien dans ses moindres détails, moi, quand elle habita dans ce quartier avec son mari vers 1900-1902. C'est pourtant un beau souvenir, surtout pour un premier rendez-vous. Malgré nos belles dispositions, je fus encore ce soir-là, comme avec la bonne dont j'ai parlé, même manque de savoir et d'entreprise. Les deux étaient si près, d'ailleurs. À peine quelques mois, bien certainement. Il y avait aussi chez Jeanne une difficulté énorme qui lui donna, même à chaque essai, plus de peur que de bien. Si bien que tout se borna à nos exercices habituels, en plein grand, voilà tout. Le temps avait passé si vite, par surcroît. Bientôt, 11 heures sonnèrent, et il fallut se lever et se rhabiller pour regagner notre banlieue. Je vois encore Jeanne, au moment de partir, s'amuser à rafler toutes les bougies qui restaient de la cérémonie pour lire en cachette le soir dans sa chambre, me dit-elle. Quand nous arrivâmes, place de la Trinité, où il avait été convenu qu'on se retrouverait à un petit café blanc qui fait encore le coin de la chaussée d'Antin, Ambert était déjà à nous attendre, et nous filâmes tous les trois à la gare. Sur le quai, je trouvai mon père, qui rentrait aussi, et Ambert et sa sœur présentés, nous montâmes ensemble dans le train. Il était dit qu'Ambert aurait à lui seul tout le plaisir de la soirée. Assis en face de mon père, il ne déparla pas de tout le trajet. Un homme de théâtre, c'en était une occasion pour se faire mousser. Tous les ancêtres y passèrent, le grand-père, chanteur d'opéra, les deux tantes chanteuses d'opéra comique, l'oncle ingénieur et la mère admirable, après quoi vinrent ses propres mérites à lui, Ambert, ses propres talents et sa propre future gloire. Mon père était toujours d'excellente humeur avec les autres. Il avait justement très bien connu les deux chanteuses. Il bavardait avec Ambert très cordialement. Quant à Jeanne et moi, tout en riant par moments, nous ne parlions guère, juste ce qu'il fallait pour être poli. Peut-être pensait-elle à la soirée, et qu'après tout, elle était encore au même point, la pauvre chérie. Quant à moi, un plus grave sujet m'occupait bien probablement. N'allait-il pas falloir se quitter jusqu'au lendemain? Quel déchirement que la moindre séparation quand on s'aime. Tout le monde connaît cela, inutile d'insister. C'est le moment de la consigne. Décrivez un animal qui vous a marqué et racontez où, quand, comment il est entré dans votre vie.
By a cold winter's morning in 1970, when one of us, I don't know which one it was, lifted up the duvet and discovered a baby's arm and wrote this song about it. It's called Lazy. Thank you.
Voilà, c'est fini pour ce mois-ci. Et si vous voulez goûter aux ateliers d'écriture, venez à l'atelier d'écriture de l'ALEP à Blois, les mardis de 14h15 à 16h15. Au revoir.